Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et à toutes, je suis Jennifer Padjemi, bienvenue dans ce nouvel épisode de Miroir Miroir. Je sais pas vous, mais j'ai remarqué que tous les ans, à chaque fois que j'entendais parler de régime, c'était souvent autour des fêtes de fin d'année, ou comme nouvelle résolution, ou bien juste avant les vacances d'été. Moi-même, je ne compte plus les fois où je me suis dit que j'allais faire « attention », entre guillemets, parce qu'un matin, j'ai eu du mal à fermer mon jean préféré, et je trouvais que cette fameuse robe me moulait bien plus que d'habitude. Et là, c'est la guerre contre le moindre gras et toutes les sucreries. Alors oui, ces kilos sont perdus assez rapidement, mais ils reviennent toujours et parfois encore plus. Le problème, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, c'est bien les régimes. Un terme qui est totalement intégré dans notre vocabulaire et dans notre société. Il est partout, il nous obsède et il représente même près de 90 millions de résultats sur Google. Un marché juteux orienté vers les femmes principalement, qui alimente la presse magazine dite féminine depuis des décennies et qui fait grandement profiter des médecins à l'éthique douteuse, sur le dos de millions de personnes qui souffrent et espèrent changer de vie grâce à quelques kilos en moins. Et si le body positive, terme désormais marketing, qui est un mouvement à l'origine pour l'acceptation des corps plus gros dans les médias et la société, a pu nous faire croire que les régimes n'avaient plus une aussi grande place dans nos vies, c'est parce que les termes ont changé, mais ont toujours les mêmes objectifs. C'est ce qu'on va voir avec Ariane Grumbach, qui est mon invitée du jour. Elle est diététicienne, autrice du livre « La gourmandise ne fait pas grossir » aux éditions Carnet Nord, animatrice du podcast BCBT et fait partie du groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Depuis plusieurs années, elle se bat contre les régimes et nous fait comprendre que notre rapport au corps est directement lié à notre rapport à la nourriture. On va essayer de comprendre pourquoi les régimes nous font tant de mal et comment on en est arrivé là. Qui sont les responsables de tout ça, mais surtout, comment arriver à faire la paix avec son assiette une bonne fois pour toutes. Bonjour Ariane.
Bonjour Jennifer.
Merci d'être présente avec moi aujourd'hui.
Avec plaisir.
Avant de commencer, est-ce que vous pourriez nous dire rapidement la différence entre diététicien et nutritionniste ?
Absolument. En fait, diététicien, c'est une profession réglementée qu'on ne peut exercer qu'avec un diplôme, en étant référencé. Alors que nutritionniste, en fait, contrairement à ce qu'on croit, c'est juste un adjectif. Et donc, les médecins nutritionnistes, c'est pas une spécialité de médecine. C'est éventuellement des gens qui ont fait des études de nutrition. C'est éventuellement des gens qui mettent ça sur leur plaque sans aucune règle. Et donc, c'est un adjectif qui peut être utilisé un petit peu comme on veut. Donc, ils essayent de faire reconnaître ça comme une spécialité, mais c'est pas le cas pour l'instant. Et n'importe qui, en fait, peut se dire nutritionniste.
Mais qui est médecin, du coup, dans les deux ?
Et donc, les diététiciens ne sont pas médecins, d'accord, c'est une profession paramédicale. Et il y a des médecins nutritionnistes, mais il y a aussi des gens qui sont nutritionnistes sans être médecins.
Donc vous, vous êtes diététicienne libérale depuis 2008 et vous vous décrivez vous-même comme une diététicienne gourmande. Ça me fait sourire parce que c'est pas quelque chose qu'on voit habituellement.
Ben justement, alors d'abord c'est que c'est une vérité que je suis gourmande et je suis notamment devenue diététicienne parce que j'aimais beaucoup manger, ça me passionnait. Et puis en fait c'est pour justement aller contre l'image qui est vraiment très majoritairement répandue que diététicienne égale privation, restriction, régime. Et donc, je veux provoquer l'intérêt et le questionnement en disant ça.
Vous, quelle est votre approche en tant que diététicienne ? Par exemple, si j'arrive dans votre cabinet et que je vous dis « j'ai envie de perdre 15 kilos », comment vous procédez ?
Alors, la première chose que je fais, c'est que je vais vous demander de raconter votre histoire, c'est-à-dire toute votre histoire avec l'alimentation, le poids depuis le début, parce que assez souvent, ça remonte à l'enfance, les premiers questionnements. Et du coup, ben, est-ce que c'est une prise de poids régulière ou d'un coup ? Est-ce qu'il y a eu des pertes de poids, des reprises de poids, des régimes ? Enfin, toute cette histoire pour comprendre un petit peu votre relation à la nourriture. Après, ben, je vais aussi vous demander de me raconter comment vous mangez. Et à partir de là, ben, j'ai une approche qui est toujours très personnalisé. J'ai pas une méthode, enfin j'ai des outils, mais j'ai pas une méthode stricte. Et on va travailler sur plusieurs choses en fonction des personnes. Il y a un aspect qui est de se reconnecter à ses sensations alimentaires, c'est-à-dire que il y a beaucoup de personnes qui mangent par habitude, parce que c'est l'heure, parce qu'on leur a dit de finir leur assiette, et donc se reconnecter au fait de ressentir qu'on a faim, de ressentir qu'on est rassasié. Donc ça peut passer aussi par le fait de manger avec plus d'attention à ce qu'on mange pour ressentir les choses et puis avoir aussi du plaisir à manger. Donc ça, c'est une première partie qui des fois est nécessaire ou pas, parce que des fois les personnes ont déjà fait ce travail-là. Après, ça dépend un peu de l'histoire de la personne, mais il peut y avoir souvent une partie émotionnelle qui est soit... le fait qu'on a des envies de manger émotionnelles, c'est-à-dire qu'on va chercher beaucoup de réconfort ou d'apaisement dans la nourriture. Donc on va travailler là-dessus, à déconnecter un petit peu son ressenti émotionnel de la nourriture. Puis après, il y a se réconcilier avec les aliments, si on a eu l'habitude de se priver, de diaboliser certains aliments, donc réapprendre à manger de tout. Il peut y avoir même une part d'organisation, si on n'a pas d'idée, si on ne sait pas comment s'organiser pour manger. Enfin, c'est vraiment une approche très, très globale pour que la personne change vraiment ses habitudes et du coup perdent du poids vraiment durablement.
Mais est-ce que les personnes qui viennent vous voir veulent absolument perdre du poids et utilisent le mot régime ? Ou est-ce qu'il y a aussi des personnes qui arrivent pour vous dire, voilà, j'ai juste envie d'avoir une alimentation plus saine ou juste d'avoir un autre rapport à la nourriture ? Est-ce qu'il y a toujours le mot régime ?
Alors, il y a très souvent le mot régime, mais pour le fuir. C'est-à-dire que j'ai quand même une certaine visibilité avec mon approche justement anti-régime. Donc, c'est quand même la majorité des personnes qui viennent me voir veulent arrêter les régimes. Ils se sont rendus compte que c'était horrible, que c'était traumatisant, que ça les avait fait grossir. Et donc, elles veulent justement autre chose. Alors, des fois, cette autre chose leur fait peur aussi parce que c'est une certaine liberté, en fait, de s'écouter, de manger ce qu'on veut. Mais c'est ça que je leur propose. Alors, pour la majorité, il y a au départ quand même une envie de perdre du poids, mais c'est souvent quand même assez couplé avec une envie d'avoir une relation apaisée à la nourriture. Et des fois, cet aspect-là peut prendre le dessus, c'est-à-dire que des fois, au bout de quelques temps, assez rapidement, elle retrouve, justement en réapprenant à manger de tout, à s'écouter, une telle tranquillité mentale. Et des fois, c'est un tel confort, une telle révolution que finalement, le poids peut passer au second plan. Il peut y avoir des personnes qui viennent juste pour ça, effectivement, juste pour apaiser ça sans préoccupation de poids ou en disant « le poids, on verra bien ». Peut-être ça sera un résultat en plus, mais c'est pas ça l'important.
Donc le terme de régime alimentaire au sens propre de restriction a été popularisé par Lulu Hunt Peters, qui en 1918 invitait ses lectrices à compter les calories, à raison de 1200 par jour. Donc le livre s'intitulait « Diet and Health with Key to the Calories » et elle écrivait des choses comme, je cite, « Désormais, vous mangerez des calories de nourriture. »
Horreur.
Plutôt que de dire que vous prenez une tranche de pain ou une part de gâteau, vous direz 100 calories de pain, 350 calories de gâteau. Est-ce que c'est ce livre qui a vraiment marqué un tournant dans la diététique ?
Je pense qu'il existait avant, enfin depuis des siècles, des envies de maîtriser son corps, beaucoup de croyances diverses et variées sur les bons, les mauvais aliments, depuis sûrement même le Moyen-Âge, ou peut-être. Mais cette idée de calories, elle est venue avec une approche en fait beaucoup plus scientifique de connaissance de l'énergie et de ce que pouvaient apporter en termes nutritionnels et en termes de calcul énergétique les aliments. Donc ça, c'est vraiment un changement parce que du coup, ça a rendu les choses encore plus obsessionnelles. Parce qu'avant, quand même, on se disait peut-être qu'il y a des bonnes et des mauvaises choses. Là, on s'est mis à tout compter. Et ce qui occupe la tête en permanence, en fait, et à prendre par cœur des calories. Et c'est terrible parce que moi, je vois des personnes qui, des fois, ont tellement intégré ça que c'est automatique, c'est un réflexe, en fait, face à un aliment, de savoir combien de calories ça représente.
Et entre les spéciales kilos une semaine pour que ça marche de elle ou les moins 5 kilos zéro frustration de Marie-Claire et j'en passe, on le sait, les magazines dits féminins ont depuis toujours surfé sur la culpabilisation des femmes. en leur proposant un nombre de régimes incalculables, aux noms parfois imprononçables, disons-le, comme le régime Kimkins, ovo-végétarisme ou 5.2, et toujours avec un objectif de perdre du poids. Comment vous interprétez-vous cette injonction à maigrir sans arrêt ?
Bah, je crois que, enfin, à toute époque, mais probablement c'est beaucoup plus prégnant depuis le milieu du XXe siècle, il y a un standard de beauté qui est défini, qui dit belle égale mince. Et sans prendre en compte du tout le fait que toutes les femmes ont des morphologies différentes, sont plus ou moins carrées, grandes, petites. En fait, il y a quelque chose dont j'avais parlé dans mon livre et qui n'est pas toujours évident pour les gens, c'est que on cherche pas tellement à contrôler sa taille, à part mettre des talons, et on croit qu'on peut contrôler son poids. Et donc, on nous montre des standards de beauté et de minceur en nous faisant croire que c'est atteignable, en fait. Et du coup, on se dit qu'il faut absolument être comme ça, qu'on sera plus belle, plus désirable, on réussira tout mieux. Et du coup, on se lance dans cette spirale de perte du poids qui forcément après a des effets rebonds et le fameux effet de régime yo-yo. Et donc ce désir, il est vraiment ancré vraiment extrêmement fort chez beaucoup de femmes. Et du coup, c'est une quête mais qui est permanente et qui peut prendre toute la vie.
Justement, Nadia Adam le rappelait dans un article publié sur Slate, avec un titre on ne peut plus évocateur, « Hey, elle, glamour, Grazia, et si vous nous lâchez le cul, et le ventre, et les cuisses, et les bras ?» Et elle disait que la rédactrice en chef adjointe de Femmes Actuelles expliquait au JT de France 2 en 2015, je cite, « On sait que naturellement, les sujets minceurs font 5% à 10% de ventes en plus. Et quand on a sorti ça de pub télé, les ventes grimpent à plus de 25% ou plus de 30%. » Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ça ?
Ben, je crois que tout est dit, c'est un business. C'est-à-dire que je parlais effectivement de ce désir vraiment profond d'être mince et du coup, le marché surfe là-dessus. C'est-à-dire que les magazines féminins qui en rajoutent avec tous les régimes que vous avez cités et aussi toutes les crèmes, les potions pour maigrir, tous les régimes minceurs parce qu'on est toujours persuadé que c'est atteignable. Et moi, j'en veux vraiment aux magazines féminins de véhiculer ça. Mais justement, ils le font parce que ça marche et parce qu'ils ont aussi des budgets de marques qui vont aussi promouvoir ça. Donc, c'est sans fin. Je crois qu'il faut se rebeller. C'est-à-dire que... je cite des fois Coluche qui disait si les gens n'achetaient pas, ça ne se vendrait pas. Donc, on peut peut-être boycotter certains magazines.
C'est vrai que les magazines féminins sont responsables de tout ça, mais pas que. Sachant que la plupart de ces régimes, du camp à Atkins en passant par Grahams, sont souvent inventés et popularisés par des médecins. Donc ils deviennent des sortes de célébrités qui vantent partout leurs secrets miracles pour perdre du poids. Et on se demande finalement qui croire et à qui profitent vraiment les régimes.
Les régimes, ils profitent, je dirais, à tous les acteurs du marché. C'est-à-dire que ces fameux médecins, ils sont devenus très riches, c'est devenu des entreprises. Hein. C'est même ce qu'on leur a reproché à certains, c'est-à-dire de faire plus des affaires que de la médecine. Donc c'est clair que ça leur profite beaucoup. Ça profite, ça profite aux magazines, ça profite aux marques de mode, ça profite à la parapharmacie. Enfin, ça profite à tout le monde. C'est un truc bizarre qui se passe dans la tête des personnes qui se mettent à ces régimes parce que au fil des régimes, on perd confiance en soi en se disant « pourquoi j'y arrive pas ?» Mais en même temps, il y a une espèce d'effort de volonté de se dire « ah, la prochaine fois, ça va marcher. Et celui-là, je sens qu'il est mieux et ils sont très bien packagés, donc on y croit. » Et donc, comme on est dans cette espèce, mais comme je disais, de désir, mais vraiment absolu de perdre du poids, c'est tellement bien présenté qu'on se dit « ah oui, non, mais là, je vois, c'est simple, je vais y arriver. Cette fois, je vais... » Et on y met beaucoup de volonté, sauf qu'on y met de la volonté forcément qui peut durer qu'un temps, parce qu'on ne peut pas être dans le contrôle permanent. Donc à chaque fois, il y a ce nouveau rêve.
Et par ailleurs, je vous coupe deux secondes pour dire que Pierre Ducamp a été radié de l'Ordre des médecins en 2014 et que son régime est très décrié depuis le début chez beaucoup de professionnels de santé, mais toujours aussi populaire sur Internet, chez les gens. Enfin, en tout cas, ça a baissé.
J'ai l'impression que ça a baissé parce qu'il y a eu tellement... Enfin, ce régime-là en particulier, il a été extrêmement, extrêmement suivi par beaucoup d'hommes aussi. Mais du coup, il y a quand même un historique. C'est-à-dire que les gens voient autour d'eux toutes les personnes qui ont repris du poids. Il y a des personnes qui ont eu aussi des gros problèmes de santé avec ce régime. Donc, j'ai l'impression qu'il a un petit peu moins d'influence. Alors, ceci dit, comme c'est un business, il y a quand même plein de gens qui continuent à manger du son d'avoine.
Et il a même un site internet voilà, qui serait comme n'importe quelle marque qu'on trouve sur le marché. Les personnes qui entament un régime drastique sont souvent enclins à souffrir de troubles alimentaires par la suite. Donc 1,5% des filles entre 15 et 35 ans le sont, dont 10% dans les cas les plus graves en meurent. Et en France, ce sont 8 millions de personnes au total qui sont concernées par les troubles alimentaires. Donc si je ne me trompe pas, les chiffres paraissent assez clairs. Donc pourquoi on continue à nous imposer ça ?
C'est terrible, c'est-à-dire qu'il y a effectivement beaucoup de messages, des études qui montrent que ça ne marche pas, mais je crois que on est trop imprégné, même si les personnes disent mais non, moi je lis pas les magazines féminins, je regarde pas la télé, etc. Mais je pense qu'il y a une imprégnation, il y a des chercheurs qui ont montré ça. On est imprégné par ce modèle de minceur. Je dirais à l'insu de notre plein gré, hein, on s'en rend même pas compte. Et du coup, on pense que c'est vraiment ça qui est la clé de tout. Il y a un très très bon livre dont je parle souvent, qui est un livre canadien de Daniel Burke, qui s'appelle « À 10 kilos du bonheur ». Mais c'est vraiment ça, c'est qu'on se dit « ma vie commencera quand je serai mince ». Je dirais qu'au début, peut-être qu'on n'a que 3 kilos à perdre, mais du coup on se lance dans une spirale, on perd les 3 kilos, mais... On s'est privé. Alors, ça déclenche pas toujours des troubles. Soit on les reprend et puis on se remet au régime et puis on est dans cette espèce d'effet yo-yo où à chaque régime, on va prendre un petit peu plus de poids. Et du coup, ça peut finir à des poids mais absolument énormes alors qu'au début, ce que me dit mes patientes, au début, j'étais normale en fait. Donc, soit il y a ça, soit il y a la spirale descendante, effectivement, de l'euphorie de la perte de poids qui, dans certains cas, mais avec sûrement d'autres facteurs déterminants, peuvent mener à l'anorexie, c'est-à-dire à effectivement avoir envie de moins en moins manger et de ne pas se rendre compte en fait qu'on devient maigre et qu'on met son corps en danger. Et puis un autre trouble qui est des fois la suite de l'anorexie, qui est la boulimie, c'est-à-dire à force de se priver, on n'en peut plus et on se met à avoir des crises où on mange énormément. Et je dirais la difficulté avec ces troubles, et alors c'est que pourtant il y a des professionnels qui peuvent s'en occuper, mais ça génère notamment la boulimie, beaucoup de honte. Parce qu'on se sent pas normal, parce qu'on a l'impression, dans un monde où on doit tout maîtriser, où tout est question de volonté, de contrôle, qu'on maîtrise pas les choses, que c'est pas bien. Et du coup, on n'ose pas du tout en parler. Sans même être boulimique, il y a beaucoup de femmes qui ont des pulsions alimentaires, des compulsions, des envies de se jeter sur certains aliments, soit parce qu'elles s'en sont privées, soit parce que il y a du stress ou d'autres choses. Et j'ai une patiente que je suis qui me disait, mais quand elle est venue dans mon cabinet, c'était la première fois de sa vie qu'elle en parlait, une personne qui a, je sais pas, 50, 55 ans. Parce que même à son mari, elle ne pouvait pas en parler. Donc je pense que toute cette honte font que les personnes gardent ça pour elles et du coup, peut-être se donnent pas les meilleures possibilités d'être soignées, d'en sortir.
Il y a un facteur psychologique à prendre en compte dans ces troubles alimentaires, etc.
Il y a un facteur psychologique essentiel. Hein. C'est d'ailleurs un truc terrible, c'est que les études de diététique n'ont absolument pas de psychologie. Moi, j'ai fait beaucoup de formations après parce que bien sûr qu'il y a une part psychologique importante qui est soit dans la relation aux aliments et c'est une des conséquences des régimes, c'est vraiment de diaboliser certains aliments, de dire qu'ils sont mauvais, qu'ils font grossir, etc. Et du coup, on est dans un système de privation-craquage, c'est-à-dire que plus on se prive, plus on a envie d'un aliment et on finit par craquer. Donc il y a toute cette part alimentaire et ce que je disais tout à l'heure de petit à petit se réconcilier avec les aliments. Et puis il peut y avoir une part émotionnelle avec des degrés de gravité diverses qui peuvent avoir des origines dans l'enfance. Dans l'enfance, la construction d'une relation à la nourriture où ben, ça va pas, je te donne un bonbon ou un gâteau. Et donc, qui construit ce lien, bah, ça va pas, je mange. Ou des choses beaucoup plus lourdes, des traumatismes qui peuvent effectivement faire qu'on va aller chercher un refuge dans la nourriture pour s'apaiser, pour anesthésier des émotions, pour se remplir, pour se mettre dans une espèce de bulle où on veut plus penser. Donc, il y a vraiment toutes sortes de situations, mais qui effectivement mettent en jeu des aspects psychologiques de la personne.
On l'a déjà tous et toutes entendu, Weight Watchers, c'est l'une des organisations les plus connues qui a instauré le régime alimentaire comme mode de vie avec un système de points. Et donc créé aux États-Unis en 1963 avec des ambassadeurs très connus comme Oprah Winfrey, DJ Khaled, Robbie Williams ou en France des personnalités comme Amel Bent ou Hélène Ségara. Et cette année, ils ont lancé Curbo, une application pour maigrir dédiée aux enfants de 8 à 17 ans. Donc ça a été un tollé un peu partout dans le monde avec une pétition qui a recueilli près de 115 000 signatures, mais elle est toujours active. Est-ce que s'attaquer aux plus jeunes est une manière de les rendre accros au régime plus rapidement et plus facilement ?
Exactement, c'est terrible. C'est terrible, c'est-à-dire que cette notion de contrôle de l'alimentation, là, je comprends, ils ont énormément de moyens, Weight Watchers, et c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a quand même beaucoup, beaucoup de problèmes de surpoids et d'obésité sur les enfants. Donc je pense qu'ils veulent attaquer ça. Je ne crois pas que ce soit la bonne façon d'attaquer, de rentrer dans ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire du contrôle mental. Ce n'est pas un contrôle par les calories, c'est ça qu'ils ont inventé et qui, sans doute, a été leur succès. C'est qu'on ne compte plus les calories, on compte des points. Donc c'est un petit peu plus simple, mais ce n'est pas vraiment différent. Et il y a des gens qui deviennent obsessionnels des points. Il y a une personne qui me racontait que des années après, elle se rappelait qu'une part de galette des rois, c'était 12 points. Donc autant dire qu'elle a du mal à manger la galette avec uniquement du plaisir.
Et puis le problème, c'est aussi les ambassadeurs qui sont très connus. Enfin, par exemple, quand on voit une Oprah Winfrey qui a une influence énorme, qui a participé pendant de nombreuses années à ça et à faire un peu la promotion de cette marque. Enfin, c'est horrible sur l'impact en fait que ça peut avoir sur des gens qui consomment.
Je pense qu'il y a deux choses là-dedans. Enfin, soyons clairs qu'il doit y avoir un intérêt financier, qu'elle a dû être très 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 bien payée. Et par ailleurs, il y a le testimonial. Regardez, pour moi, ça a marché. C'est-à-dire que si on se situe dans le court terme, effectivement, Oprah Winfrey a fait Weight Watchers. Je pense que c'est probablement vrai, et elle a perdu du poids. Qu'elle a probablement, me semble-t-il, repris. Du coup, ils sont passés à une autre ambassadrice, probablement. C'est-à-dire qu'il y a, toujours, je pense que ce qui marche beaucoup dans le monde d'aujourd'hui, et donc d'ailleurs merci des fois de faire appel à des professionnels, parce que ce qui marche beaucoup aujourd'hui, c'est les témoignages, puisqu'on est quand même dans un monde de l'émotionnel, et du coup, pouvoir s'identifier à quelqu'un, pouvoir se dire, ah, j'ai vécu la même chose, il se passe la même chose pour moi, donc si ça a marché pour elle, ça va marcher pour moi, c'est quelque chose qui est beaucoup dans l'air du temps. Et donc, effectivement, plus la personne est connue et a une aura, plus ça va motiver des personnes.
Et en parlant des jeunes, donc Florence Fortuné écrivait dans la newsletter Les Petits Glos que sa mère l'avait emmenée chez la diététicienne pour la première fois à 8 ans et que c'est à partir de là que ses problèmes ont commencé. Elle écrit, je cite,
après avoir rencontré plusieurs médecins, essayé toutes les activités sportives inimaginables et plusieurs régimes infructueux, j'ai finalement commencé Weight Watchers à 16 ans. J'étais grosse pour mon âge, très grosse. Mon corps dérangeait les adultes comme mes camarades de classe. Je pensais qu'un régime comme Weight Watchers m'aiderait. Mon poids serait surveillé, j'allais noter tout ce que je mangeais et on m'applaudirait au moindre gramme perdu. Ma vie allait changer, j'allais enfin devenir mince. J'ai finalement perdu près de 60 kilos en l'espace de 2 ans. Mon teint était gris, j'avais froid en permanence, mes cheveux tombaient par mèches et très vite mon cœur m'a suivi dans ma chute. Le verdict de l'infirmière qui m'a prise en charge aux urgences était très clair. J'étais anorexique. Mon rêve de tranquillité ne m'avait finalement apporté que souffrance, détestation de moi-même et danger. Cool les régimes, n'est-ce pas ?
D'après ce que vous venez d'entendre, que diriez-vous aux parents comme la mère de Florence qui désirent mettre leur enfant au régime dès le plus jeune âge, mais ne se rendent pas forcément compte du revers de la médaille ?
Alors, d'abord, j'essayerais de voir si les parents, et notamment la mère, ont eux-mêmes une relation tranquille à leur corps et à leur nourriture, parce que il peut y avoir des mères obsédées de la minceur et qui du coup vont peut-être mettre leur enfant au régime alors qu'il est de poids normal. Donc effectivement, ça, là, il faut plutôt travailler avec les parents à essayer de leur faire comprendre la diversité des corps, que même dans une famille, on n'a pas tous la même morphologie et qu'on peut être très longiligne et avoir des enfants qui ont une morphologie différente. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça dépend un petit peu de l'âge. C'est-à-dire que je dirais qu'il y a un âge vers justement 8-9 ans où il ne faut peut-être pas s'inquiéter et se dire peut-être qu'elle va grandir, la croissance n'est pas, pas homogène, peut-être qu'elle va grandir, à un moment donné s'affiner, qu'est-ce qui va se passer à la puberté, etc. Donc, pas forcément se focaliser sur exactement comment est l'enfant à cet âge-là. Mais par contre, si effectivement, il y a une réalité, c'est que l'enfant a beaucoup de poids en trop, il ne faut jamais mettre au régime, parce que ça, c'est vraiment le début d'une spirale, et ça, c'est vraiment su, reconnu que si on prive un enfant, il trouve toujours un moyen de manger en cachette, que ce soit chez les copains, la grand-mère, etc. Donc il ne faut jamais priver un enfant. Ça peut vraiment avoir des conséquences horribles, surtout quand on est dans une famille où il y a plusieurs enfants et qu'il y en a un qu'on prive. Donc il ne faut pas du tout le priver, mais il faut essayer avec beaucoup, beaucoup de bienveillance, d'en parler avec l'enfant, de comprendre ce qui se passe. Un enfant, il peut aussi avoir un rapport émotionnel à la nourriture, peut-être il peut manger trop vite. Qu'est-ce qu'il cherche comme réconfort ou comme besoin dans la nourriture? Donc éventuellement aller voir un professionnel, mais déjà en parler et lui dire c'est pas grave, de bien lui montrer que de toute façon on l'aime de façon inconditionnelle, mais que peut-être pour son bien-être ça serait bien de comprendre un petit peu ce qui se passe, mais surtout pas rentrer dans la privation.
Qui est drôle aujourd'hui, alors pas vraiment drôle, mais on peut voir que le vocabulaire a changé. On ne parle plus de régime, mais de reprofiler son corps, de détox, de manger sain dans un corps sain, rester fit, du jeûne intermittent, et plus généralement dans un mode de vie sain qui pullule sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et il y a encore 82% des Françaises qui font attention à leur ligne, entre guillemets. Donc, même si on éradique ce mot, on peut facilement le contourner. Et je me demande comment on fait pour complètement changer le paradigme et ne plus voir la nourriture comme un ennemi.
Mais vous avez raison, tout ça, ça reste du contrôle de la nourriture et sûrement du contrôle excessif. Et effectivement, les personnes qui disent « je fais attention », elles vont dire « mais non, je ne suis pas au régime ». Mais en fait, elles sont dans une espèce de contrôle permanent. J'avais rencontré une personne qui était venue me consulter, qui avait, je crois, 74 ou 75 ans. Mais ça faisait, je ne sais plus, 30 ans ou 40 ans qu'elle n'avait pas mangé un gâteau. Et elle avait découvert des yaourts ou des fromages blancs qui n'étaient pas à 0%. Et elle se disait, oh, mais c'est tellement meilleur. Et du coup, je sais pas, elle avait pris peut-être 3 kilos, mais et ça la traumatisait. Donc, c'est à 75 ans. Donc, c'est vraiment, vraiment terrible. Donc, je dirais que... Alors, au début, quand j'ai commencé à exercer, je disais, ben, on va réapprendre à manger avec son corps, c'est-à-dire manger plus en écoutant ses sensations, et ça reste toujours vrai. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas du tout manger avec sa tête, c'est-à-dire qu'il peut quand même y avoir, sans que ça devienne obsessionnel et que ça vire à ce qu'on appelle l'orthorexie, une envie de manger sain, d'acheter plutôt des bons aliments, puis après, chacun décide s'il a envie de manger bio, végétarien, etc. Et ça, c'est pas... je dirais des choix personnel à faire en cohérence avec soi-même. Ce qui me paraît dommage, c'est de plaquer sur soi des modèles qui sont à la mode ou imposés par d'autres. Alors, quoi faire? C'est justement se reconnecter vraiment à soi, c'est-à-dire être à l'écoute de soi, donc comme je disais tout à l'heure, de ses sensations alimentaires, refaire confiance à ses envies, c'est-à-dire que les gens qui ont peur de la liberté de manger ce qu'ils veulent se rendent compte qu'en fait, s'ils mangent pendant 3 jours que du fromage ou de la pizza, ils ont très vite envie d'autre chose et que l'équilibre, il se fait assez naturellement. Donc, c'est vraiment reconstruire de la confiance en soi et du coup, en s'écoutant soi, moins écouter tous les discours qui polluent en fait la relation à la nourriture. Ça n'est pas facile parce qu'il y a tellement de choses sur Internet et ailleurs, mais c'est vraiment voilà, reprendre la main, reprendre sa liberté par rapport à ses choix alimentaires.
Et plus généralement, que diriez-vous aux personnes qui sont juste complexées par leur corps et qui pensent que les régimes sont la seule solution ?
C'est terrible, j'en parle des fois avec des collègues, c'est que en fait on croit que l'alternative c'est soit s'accepter comme on est, quel que soit son poids, soit se mettre au régime. Et justement, moi, je défends, avec d'autres personnes, notamment les personnes du groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, le fait qu'on peut perdre du poids autrement, justement, en travaillant sur ses sensations, ses émotions, sur le fait de manger de tout en conscience. Après, on arrive à ce qu'on appelle le poids d'équilibre, qui est le juste poids qu'on peut maintenir sans effort et sans privation. Ça ne veut pas dire que c'est le poids et la silhouette rêvée. Donc après, il y a plus un travail en fait d'acceptation, qui n'est pas forcément l'acceptation de son corps, mais qui est aussi d'être à l'écoute, et vous en aviez très bien parlé avec Sophie Cheval, d'être à l'écoute effectivement des émotions qui sont suscitées par le corps quand on se regarde dans la glace, quand on essaye des vêtements, et d'accepter aussi de ne pas être comme tout le monde. Donc moi je défends justement beaucoup la diversité corporelle, c'est-à-dire qu'on peut se sentir bien dans son corps, même si on n'a pas le corps des mannequins ou une taille 36.
Et enfin, quels ouvrages ou documentaires vous recommanderiez pour prendre conscience justement de l'impact négatif des régimes sur les gens et peut-être aussi pour trouver un juste milieu dans sa manière de manger ?
Alors, il y a beaucoup de livres, mais il n'y a pas le livre parfait, je pense. Il y a un livre de Gérard Apfeldorfer, je pense, qui aborde énormément de sujets et qui vient de rééditer. Alors, ça s'appelait « Maigrir, c'est dans la tête » et maintenant, il est ressorti cette année. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le titre. Maigrir, c'est simple et dans la tête. Alors, moi, je ne crois pas que ce soit vraiment si simple que ça. Mais c'est un très bon livre, très complet. Et je pense qu'il a complètement revu, parce que je pense que des choses qu'il avait écrites peut-être il y a une quinzaine d'années sont plus vraiment tout à fait d'actualité dans ses convictions. Donc, je crois qu'il a été vraiment revu. Et ça, c'est vraiment un livre qui aborde beaucoup, beaucoup de choses de la relation à la nourriture. Un autre livre qui me paraît intéressant, ça s'appelle « Manger en pleine conscience » de Jan Schozenbeck, qui est un livre qui aborde toutes les envies de manger d'une façon assez intéressante et concrète, avec beaucoup d'exercices concrets. Donc c'est un livre qui peut vraiment, vraiment aider. Évidemment, il y a « Beauté fatale » de Mona Chollet pour comprendre un petit peu tous les dictats de beauté. Il y a le livre dont je parlais, « À 10 kilos du bonheur » de Daniel Bourque, qui est un livre canadien, je pense qu'on peut le trouver sur Internet, parce qu'elle analyse vraiment à la fois toute l'histoire de la minceur et pourquoi ces dictats se sont installés, et puis comment on peut faire un petit peu autrement. C'est vraiment un super livre. En documentaire, je pense qu'on peut toujours trouver sur Internet un documentaire qui visiblement avait marqué beaucoup de gens, qui s'appelle « Régime, la vérité qui dérange », qui était un documentaire qui était passé sur France 2, et il me semble qu'il est encore disponible sur Internet.
Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui, Ariane.
Merci pour votre écoute, Jennifer.
Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à laisser des bonnes notes s'il vous a plu, mais aussi à commenter et réagir sur les réseaux sociaux @miroirpodcast sur Twitter pour nous dire ce que vous en avez pensé. Je remercie également Mathieu Thévenon à la réalisation et Diane Jean à la production, avec l'aide de Camille Regache et David Carzon. Quant à moi, je ne vous dis pas à dans 2 semaines, mais plutôt à l'année prochaine, puisqu'on fait une petite pause pour les fêtes de fin d'année. Passez de très bonnes fêtes et à très bientôt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.